De Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une, ceux qui ont réussi à s'infiltrer dans Paris, mais pas en convoi. Les derniers protestataires ont été évacués cette nuit du côté des Champs-Élysées et certains maintiennent leur cap vers Bruxelles. On y revient après les autres titres, Christelle.
Le dialogue, oui, mais de sourds entre Joe Biden et Vladimir Poutine. La diplomatie n'a pas réussi à faire baisser la pression autour de l'Ukraine. Dans ce journal aussi, Anne Hidalgo en campagne aux Antilles devant un auditoire clairsemé. Valérie Pécresse joue le rebond de sa campagne tout à l'heure en meeting au Zénith de Paris. Et les Bleus affamés. Le 15 de France a battu l'Irlande 30-24. Les supporters, avec ce qui leur reste de voix, rêvent d'un grand chelem dans le tournoi des Six Nations.
L'invité à partir de 8h20 ce matin, ce sera le député européen Bernard Guetta, ancien correspondant à Moscou et à Varsovie. On va tenter avec lui de comprendre les réelles intentions de Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien.
France Inter. Les convois n'ont pas bloqué Paris hier, mais les antipasses et d'anciens gilets jaunes ont quand même réussi à s'infiltrer dans la capitale. 54 personnes ont été interpellées, dont le gilet jaune Jérôme Rodriguez et 337 autres verbalisés. Le calme n'est revenu que tard dans la soirée du côté des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. D'autres avaient choisi de s'arrêter à Fontainebleau pour un pique-nique géant. Portrait de l'un des convoyeurs, Ajra Mohamed.
Il y a quelques années, Fabrice était sur les ronds-points de sa ville, ancien gilet jaune. Il se battait déjà pour son pouvoir d'achat. Depuis, rien n'a changé pour ce père de famille sans emploi. S'il repart à l'action, c'est pour obtenir enfin gain de cause, juste l'essentiel.
Qu'on ait à manger vraiment dans l'assiette, qu'on n'ait pas besoin de compter le sou au milieu du mois et que les enfants arrivent à manger correctement. Pas de la malbouffe, pas chercher les articles en bas du rayon, mais vraiment... la bonne qualité.
À 44 ans, Fabrice a déjà attrapé le Covid deux fois, mais il dénonce toujours le pass vaccinal.
Ça me met en colère parce qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Je ne veux pas être vacciné et je ne serai pas vacciné.
Ces convois de la liberté, c'est aussi un message adressé au futur ou à la future présidente de la République.
Il y en a un petit peu ras-le-bol de ce système, mais ce n'est pas que dû à Macron, je ne lui jette pas que la pierre à lui. Mitterrand, Sarkozy et tout cela, madame, ça a toujours été pareil. Je veux vraiment que ça bouge. Que celui qui a le pouvoir sur la France, qui l'ouvre les yeux et qui réalise que c'est le peuple qui leur met l'argent dans la poche.
Et pourtant, malgré cette volonté de voir du changement à la tête de l'État, Fabrice est un déçu de la politique. Il n'ira pas voter en avril à l'élection présidentielle.
Et il compte poursuivre sa route vers Bruxelles, mais là encore, toute manifestation est interdite demain. C'est le jour ou jamais pour Valérie Pécresse. La candidate doit profiter de son grand meeting au Zénith de Paris pour relancer sa campagne. Elle prononcera un discours de 45 minutes pour donner sa vision de l'avenir et casser son image trop lisse. Dans le journal du dimanche, elle affirme vouloir défendre une France de l'ordre et de la concorde. « Je trace ma voie », dit-elle. Pendant ce temps, une autre candidate bien déterminée à aller jusqu'au bout est en campagne aux Antilles. La socialiste Anne Hidalgo arrivera tout à l'heure en Martinique après la Guadeloupe. À Basse-Terre, hier, les rangs étaient plutôt clairsemés, Benjamin Mathieu.
Il y a quelques années, Fabrice était sur les ronds-points de sa ville, ancien gilet jaune. Il se battait déjà pour son pouvoir d'achat. Depuis, rien n'a changé pour ce père de famille sans emploi. S'il repart à l'action, c'est pour obtenir enfin gain de cause, juste l'essentiel.
Qu'on ait à manger vraiment dans l'assiette, qu'on n'ait pas besoin de compter le sou.
Voilà, il y a eu une petite erreur.
Inversion de reportage, on va y revenir dans la prochaine édition, je crois. À moins que ce soit prêt ? Non, c'est pas prêt. On y reviendra plus tard.
Toujours pas de désescalade dans les tensions en Ukraine, même si les chefs d'État se sont beaucoup parlé hier. À l'issue d'une heure d'entretien téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le Kremlin a dénoncé l'hystérie des Américains qui évoque l'imminence d'une attaque. En réalité, ni ce coup de fil, ni celui entre Poutine et Emmanuel Macron n'ont permis de calmer le jeu. À New York, Loïc Loury.
Une invasion russe de l'Ukraine causerait des souffrances humaines considérables et fragiliserait la position de la Russie. C'est ce qu'a affirmé, selon la Maison-Blanche, Joe Biden à Vladimir Poutine. Le président américain, comme régulièrement depuis décembre, menace de répercussions sévères et rapides en cas d'attaque. Les alliés, pour autant, restent prêts à d'autres scénarios. Un échange professionnel et riche assure un responsable américain, mais pas de changement fondamental, dit-il, dans la dynamique observée depuis plusieurs semaines. En d'autres termes, l'incertitude continue de planer sur les véritables intentions de Vladimir Poutine, malgré les déclarations alarmistes de Washington sur l'imminence d'une attaque. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont rejoint la longue liste des pays à appeler leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. Washington a également ordonné le départ de l'essentiel du personnel de son ambassade de Kiev, ainsi que celui des 160 soldats qui entraînaient les forces ukrainiennes. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et effectivement, la liste des pays appelant leurs ressortissants à quitter l'Ukraine ne cesse de s'allonger, avec notamment la Norvège, l'Australie, le Japon, Israël. À Kiev, des milliers de manifestants ont défilé hier, disant refuser de céder à la panique, même s'ils prennent la menace russe très au sérieux. Et on retourne aux Antilles, enfin, sur les traces d'Anne Hidalgo, en campagne à Basse-Terre, avec Benjamin Mathieu.
Ils sont une centaine, certains portent des casquettes rouges siglées Hidalgo 2022, mais on est loin d'une ambiance de meeting.
On a une bonne candidate qui a une expérience.
Le sénateur et ancien ministre Victorin Lurel y met toute sa verve.
Elle sera présidente de la République française.
Voilà. Mais le discours d'Anne Hidalgo ne soulève pas un immense enthousiasme.
La politique, ce n'est pas que du clic. La politique, c'est de la rencontre. C'est du compagnonnage. Ce sont des moments comme celui que nous vivons ici ensemble.
Aucune hostilité pour autant.
Je pense qu'elle peut avoir des choses.
Marcel y croit, enfin presque.
Je me demande ce qui va en sortir de tout ça.
La crise sanitaire a particulièrement démobilisé les habitants pour Cédric, venu en curieux.
Les Guadeloupéens ne se sentent pas concernés forcément par la politique nationale. Mais après, effectivement, il faut aussi qu'on puisse s'impliquer, porter notre voix. On a nos spécificités, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on appartient à un ensemble.
C'est l'abstention qui joue ici les favoris.
Merci à tous, merci de votre présence. Ça semble bien parti. Merci.
La candidate socialiste joue, elle, pour le moment, les seconds rôles. Basse-Terre, Benjamin Mathieu, France Inter.
À Marseille, les riverains de la traverse Paul veulent sauver une magnifique bastide du XVIIIe siècle. Deux investisseurs locaux ont entrepris sans aucune autorisation la démolition d'une partie du bâtiment. Fin janvier, l'adjointe au maire en charge de l'urbanisme les a mis en demeure de stopper immédiatement les travaux. La ville pourrait prendre un arrêté en attendant le dépôt et l'examen d'un nouveau permis de construire. Philippe Bocara.
Et comme le dit cette habitante de la traverse Paul, le pire a déjà été commis. Le toit n'existe plus, comme les planchers. De l'extérieur, on n'aperçoit que la façade de cette très belle bastide. Les experts des bâtiments de France doivent aussi se prononcer sur la nature des travaux. Elle se situe en effet dans le périmètre de protection du château Borély. Selon la ville, les deux investisseurs sont déjà connus des services de l'urbanisme pour des méthodes parfois douteuse, cette bastide et son grand terrain valent des millions d'euros, cela dans un secteur de Marseille très prisé par les promoteurs immobiliers. L'adjointe en charge de l'urbanisme nous affirme être déterminée à faire respecter la loi. Mathilde Chaboch ajoute « Je ne veux plus des méthodes de l'ancien monde, à savoir celle de la mandature de Jean-Claude Gaudin de 1995 à 2020 ».
Philippe Bocara de France Bleu Provence.
En rugby, Christelle, quel match! Oui. Le 15 de France a mangé du trèfle irlandais au Stade de France hier.
Victoire 30-24 à l'issue d'un match engagé et haletant. Les hommes de Fabien Galthié sont les seuls à être invaincus dans le tournoi des Six Nations pour l'instant. La voie vers le grand chelem est ouverte. Les supporters en ont perdu leur voix, Fanny Lechevestrier.
80 000 spectateurs du Stade de France en fusion hier soir avec leur équipe au moment de célébrer la victoire. La voix souvent éraillée d'avoir poussé tout le match derrière leurs joueurs.
Ah ouais, là j'ai tout donné, j'ai beaucoup encouragé. Ça a payé, le travail paye. Hein.
Le cœur va tirer de 100 à l'heure.
Beaucoup avaient l'impression d'avoir vécu un moment à part, une sorte de temps suspendu, avec toujours les mêmes superlatifs à la bouche.
Exceptionnel, c'est la première fois que je suis au Stade de France, et waouh, j'ai pas les mots, c'est incroyable.
Là, j'ai amené mon ami, c'est son premier match, et il découvre le rugby, et là il a des étoiles dans les yeux, et c'est incroyable. Il fallait être là, il fallait être là.
Ils ont gagné, ils on est très contents.
Et pour eux, pas de doute, c'est cette victoire face à l'Irlande, troisième nation mondiale, qui va mener les Bleus vers le grand chelem, après lequel la France court depuis 12 ans.
Ah ouais, une victoire face à l'Irlande, oui, forcément, ça sent bon. Ouais.
On a une équipe qui joue, une équipe qui est belle, et il y a quelques années, on n'y croyait pas, mais là, cette année, c'est la bonne.
Ah oui, c'est eux, c'est personne d'autre, ils sont au-dessus du lot.
Et pour être honnête, on était beaucoup hier soir à avoir envie d'y croire, porté par ces jeunes Bleus, et surtout la joie qu'ils laissent à chaque fois dans leur sillage.
Ah oui, on n'arrête pas de chanter, donc c'est très bien.
Oh, oui, là, c'est moyen.
Et pas plus haut que le bord.
Hein. J'imagine pas la troisième mi-temps. Allez, prochain rendez-vous face à l'Écosse dans 2 semaines. Et à suivre tout à l'heure, Italie-Angleterre. Aux Jeux Olympiques, on attend beaucoup de Mathieu Fèvre et Thibaut Favreau en slalom géant. Mais le départ de la deuxième manche a dû être repoussé à 8 heures. Il neige trop, figurez-vous. Ça colle et on n'y voit rien.
Et le temps en ce moment en France, c'est maintenant.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski, c'est Mossad dans le golfe du Lion et perturbé dans le quart nord-ouest.
En effet, nuages et petites pluies vont encore concerner aujourd'hui les régions du Languedoc et du Roussillon. Et par le Finistère, une perturbation est en approche avec de la pluie et du vent, un vent assez soutenu. Le tout accompagné cet après-midi vers le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et la Normandie d'un ciel plus ou moins variable avec encore des précipitations. À l'avant des Hauts-de-France au Midi-Pyrénées, le temps va rester sec, mais le ciel va se voiler en cours d'après-midi. Et plus à l'est, là, le soleil va conserver la main. Dans des températures presque printanières cet après-midi, dans ce flux d'air doux qui remonte d'Espagne.
Jean-Michel Golinski, Météo France.